Frères et sœurs, nous entrons dans la grande octave de Pâques, qui est comme un seul jour, ce jour de la résurrection, ce jour que fit le Seigneur, ce jour où le Seigneur veut nous sortir de nos tombeaux en nous faisant contempler son Fils Jésus ressuscité, en le reconnaissant comme le Seigneur et du coup, eh bien, nous-mêmes en commençant une vie nouvelle. Et dans cette grande semaine de Pâques, eh bien, c'est comme par rayonnement, par contagion, cette bonne nouvelle de la résurrection va toucher tout d'abord le cercle étroit des disciples. En commençant par ceux qui ont été le plus proches de Jésus, on pourrait dire l'Église de l'amour, ceux qui l'ont accompagné au pied de la croix, et puis ensuite, en gagnant l'Église apostolique, l'Église des apôtres, et puis finalement, eh bien, à travers l'annonce de l'Église, eh bien, en gagnant le monde entier. Alors la première à bénéficier de cette joyeuse annonce pascale, c'est Marie-Madeleine. C'est une femme qui était avec les saintes femmes au pied de la croix, et qui était une grande amoureuse de Jésus. On pourrait dire que Marie-Madeleine, c'est vraiment la figure de la bien-aimée du Cantique des Cantiques, et c'est pourquoi elle cherche Jésus dans la nuit, alors qu'il fait encore sombre. Marie-Madeleine a eu, comme Jean et Marie, le cœur transpercé au pied de la croix, de voir son bien-aimé mis à mort, son bien-aimé flagellé, son bien-aimé transpercé, et elle est complètement désemparée. Parce que ce grand amour qu'elle a pour Jésus fait qu'au fond, elle a perdu comme toute raison de vivre. Et alors, elle est portée par cet amour à vouloir encore toucher le corps mort de Jésus, lui rendre les derniers hommages. Peut-être qu'elle se dit que ce qui a été fait le Vendredi Saint ne suffisait pas, qu'il fallait compléter ce travail qui avait été fait par Nicodème et par Joseph d'Arimathie. Et donc, elle traverse les rues de Jérusalem alors qu'il fait encore sombre, comme la bien-aimée qui cherche son bien-aimé dans les rues de la ville. Savez-vous où se trouve mon bien-aimé? Elle est encore dans la nuit de la foi. Tout est encore obscur pour elle. Et voilà qu'elle trouve la pierre enlevée et elle ne comprend pas. Elle n'est pas encore arrivée à la joyeuse nouvelle de la résurrection. Et elle va trouver les disciples pour leur dire que Jésus a été enlevé. Elle croit que peut-être on a volé son corps. Et partent donc Pierre et Jean. Pierre, c'est le chef. C'est celui sur qui va reposer toute l'Église. Il représente l'Église hiérarchique, l'Église institution, l'Église apostolique, celle qui va attester par son témoignage la résurrection du Christ. Il est très important qu'il soit le premier à être là. Et en même temps, Pierre, c'est aussi celui qui a renié dans la nuit de la Passion et qui doit être, en ce dimanche de Pâques, rempli de confusion. Il est aussi plus âgé, plus lourd peut-être aussi que Jean. Et donc, il va courir, mais moins vite que Jean. Bien qu'il aime beaucoup Jésus, il sera moins prompt que le disciple bien-aimé à se rendre au tombeau. Jean, c'est l'ami de Jésus. C'est celui qui s'est tenu au pied de la croix avec Marie, celui qui a accueilli Marie chez lui. Et Jean, c'est aussi l'Église de l'amour. Et c'est peut-être pour cela qu'il court plus vite que Pierre. On a vraiment l'impression, en ce dimanche de Pâques, que les premiers à être au tombeau, ce sont les grands amis de Jésus, les plus grands amis. Celle qui est la figure de l'épouse, Marie-Madeleine, celui qui est l'ami, c'est Jean. Il manque évidemment la mère, Marie. Pourquoi? Peut-être parce que Marie, elle, n'a pas eu besoin de voir pour croire. Elle n'a pas douté de la résurrection de son fils, même si elle a été transpercée par le glaive de douleur. Et puis vient derrière l'Église apostolique de Pierre et des autres apôtres qui, eux, se convertiront à la résurrection plus tard, ce soir, à l'occasion de la visite de Jésus au Cénacle. Et puis parmi eux, eh bien, il y aura encore Thomas qui attendra une semaine avant de croire. Mais au fond, c'est comme ça que les choses se vivent dans l'Église. Voyez, il y a, on pourrait dire, l'Église charismatique, hein, qui reçoit les intuitions, hein, qui reçoit les nouvelles de la part du Seigneur. Mais il faut qu'il y ait aussi l'Église hiérarchique qui vienne confirmer tout cela, même si ça prend un peu plus de temps. Hein, ça fait partie du mystère de l'Église. Hein, il y a cette répartition des tâches. Et donc, Jean court au tombeau et il laisse passer Pierre devant lui. Voyez, Jean ne revendique plus la première place. Hein, lui qui voulait être avec son frère Jacques, le premier parmi les 12, il a compris qu'au fond, ce qui compte, c'est d'abord et avant tout l'amour. C'est la logique de l'Église. Et l'amour, et le propre de l'amour, c'est de s'abaisser, c'est de laisser l'autre passer devant. Alors il laisse Pierre, qui pourtant a renié, alors que lui, Jean, n'a pas renié, il laisse Pierre entrer le premier dans le tombeau. Mais finalement, c'est Jean le premier qui va croire. Il va entrer dans le tombeau et il va voir les linges qui ont entouré Jésus après sa passion, posés sur la banquette où se reposait le corps, mais le corps ne sera plus là. Et à ce moment-là, Jean, à travers ce signe des linges qui sont là, posés comme si le corps était encore dedans, mais sans que le corps y soit, eh bien, comprend qu'en fait, Jésus n'a pas été volé, son corps n'a pas été volé, mais que le Christ est ressuscité. Peut-être que si Jean comprend si vite, c'est parce qu'il a vu le Vendredi Saint du corps mort de Jésus jaillir comme un signe de vie, le sang et l'eau, comme signe de la fécondité du grain qui meurt. Et peut-être que cela l'a aidé à comprendre ce dimanche de Pâques, le mystère de la résurrection de Jésus. Pierre, lui, ne comprend pas encore. Et donc, voilà qu'ils vont rentrer chez eux et Jésus va continuer tout au long de cette semaine de se manifester aux disciples pour les guérir de leurs doutes, pour nous guérir de nos doutes, pour que nous aussi, à leur suite, nous entrions dans la joie de la résurrection, nous qui n'avons pas vu le Christ ressuscité, mais qui croyons sur le témoignage des apôtres. Alors, je voudrais essayer avec vous de voir un petit peu qu'est-ce que cela nous dit, cette résurrection, qu'est-ce qu'elle signifie pour nous. Je dirais qu'il y a cinq points, si vous me permettez. Le premier, c'est que aujourd'hui, tout commence. Aujourd'hui, c'est la nouveauté absolue. Aujourd'hui, nous entrons avec Jésus dans une vie nouvelle. C'est le premier jour de la semaine, mais on pourrait dire que c'est le premier jour de la nouvelle création. Vous savez que dans beaucoup de religions du monde, on croit à la vie éternelle. On croit qu'il y a quelque chose de nous qui subsiste après la mort. Et même dans certaines cultures, on rend un culte aux morts. Ça n'est pas quelque chose d'original de croire à la vie éternelle. Et chez les Juifs, on croyait non seulement à la vie éternelle, mais on croyait, dans certains milieux comme les pharisiens, on croyait à la résurrection de Jésus à la fin des temps, à la résurrection des morts à la fin des temps. Et encore aujourd'hui, il y a des Juifs qui attendent la résurrection des morts. Il y a des Juifs qui se font enterrer, par exemple, sur le mont des Oliviers parce qu'ils croient que c'est par là que le Messie va venir et ils espèrent être les premiers à ressusciter. La grande nouveauté de notre foi chrétienne, c'est de croire que Jésus est ressuscité maintenant, aujourd'hui, et que nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons ressusciter avec lui. À travers les eaux du baptême, eh bien, nous pouvons sortir de nos tombeaux. C'est voilà la grande nouveauté. Vous voyez, saint Irénée disait, Jésus a apporté toute nouveauté en s'apportant lui-même. Et on pourrait dire que la plus grande nouveauté, c'est la nouveauté, justement. La nouveauté, c'est la résurrection. C'est nouveau. Vous voyez, ce jour de Pâques, il est nouveau, il est unique. C'est vraiment comme pour nous le premier jour de notre propre résurrection et de la résurrection de Jésus. Ça, c'est le premier point. Croire que la résurrection, c'est maintenant, aujourd'hui. Le deuxième point, c'est croire que ce Jésus qui est ressuscité, il est présent dans l'Eucharistie. Dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine que le Christ se manifeste à ses disciples. Et quand Jean écrit son évangile, eh bien, il s'adresse à des chrétiens qui n'ont pas vu Jésus ressuscité, comme la plupart d'entre nous, je suppose. mais qui vont à la messe, comme nous, donc qui nous ressemblent beaucoup. Et ils vont à la messe quand ? Le jour du Seigneur, c'est-à-dire le dimanche. Et donc, ce que veut signifier Saint Jean, c'est que l'expérience du Christ ressuscité, nous la faisons en allant participer à l'Eucharistie. Et tout à l'heure, eh bien, Jésus viendra à nous sous l'apparence du pain et du vin, c'est le ressuscité, tel qu'il s'est manifesté aux apôtres, tel qu'il s'est manifesté à Marie-Madeleine. Au passage, vous avez ici devant l'image de Jésus miséricordieux, qui justement nous décrit l'apparition du Christ ressuscité aux apôtres et à Thomas le huitième jour. Eh bien, vous savez, moi je viens de Bordeaux. En 1822, il y a eu à Bordeaux un miracle eucharistique. C'était à la congrégation de la Sainte Famille qui venait d'être fondée par le Père de Noailles. Il y avait une bénédiction du Saint-Sacrement. Et au moment où le prêtre a béni les fidèles, il y a eu au moins 10 personnes qui, au même moment, ont vu Jésus à la place de l'hostie. Et l'attitude de Jésus était la suivante. Il avait comme ça la main gauche posée sur son cœur et la main droite qui bénissait, avec un habit blanc et une sorte d'écharpe rouge au travers de la poitrine. C'est presque la même chose que l'image de Jésus miséricordieux, comme pour nous dire que c'est vraiment le même Jésus, voyez, qui s'est manifesté aux apôtres, qui va se manifester à nous sous l'apparence du pain. Hein, si nous avions les yeux des anges, nous verrons Jésus qui nous bénit, à nous qui l'avons transpercé, et qui nous dit comme aux apôtres, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Donc, croire en Jésus ressuscité, présent dans l'Eucharistie, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que ce Jésus vivant dans l'Eucharistie, c'est Jésus qui vit dans son Église. Croire que le Christ ressuscité, il est là dans notre Église, catholique, romaine. C'est pas beau ça ? Est-ce que vous êtes capable de vous tourner vers votre voisin, de gauche ou de droite, et de lui dire, « Oh ma joie, le Christ est ressuscité. Je le crois en te voyant que Jésus est ressuscité. » Est-ce que nous sommes prêts à le faire ? Alors nous allons nous tourner vers notre voisin. Ça, c'est le troisième point. Croire que Jésus est ressuscité, qu'il vit dans son Église. Le quatrième point, c'est de croire que nous aussi, nous sommes ressuscités. C'est peut-être plus difficile. Croire que le pécheur que je suis, avec toutes ses fragilités, son histoire, eh bien, aujourd'hui, peut commencer une vie nouvelle. Que vraiment, moi aussi, je suis appelé à sortir de mon tombeau, et que en me regardant moi-même je puisse dire ben, oh ma joie, le Christ est ressuscité. Hein, c'est vraiment, voyez, c'est l'attitude de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine était encore tournée vers la nostalgie, voyez, elle cherchait le Jésus d'avant Pâques, et peut-être qu'elle était encore tournée vers son passé, et Jésus en ce jour l'a aidée à se décentrer d'elle-même et au fond à se retrouver mais transfigurée. Et au fond, eh bien, elle est devenue témoin de Jésus ressuscité par sa propre vie. Apôtre des apôtres, elle qui était passée par la mort avec Jésus, elle est vraiment entrée dans la vie le jour de Pâques. Et nous aussi, nous sommes appelés à devenir témoins de Jésus ressuscité par notre propre vie. Dans l'évangile de Jean, il y a quelqu'un qui nous représente tous, c'est Lazare. Lazare qui était mort et que Jésus a ressuscité. Et à cause de Lazare, les gens ne pouvaient pas douter de la messianité de Jésus. Et c'est pourquoi les Juifs, à un certain moment, ont voulu tuer Lazare. Mais il faudrait qu'en nous voyant, les gens qui n'aiment pas Jésus aient envie de nous tuer. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'en nous voyant, on ne peut pas douter que Jésus est ressuscité. Ça vous donne envie, non ? Il faudrait qu'on soit comme des petits Lazare. Vous voyez que on soit tellement transfiguré par la résurrection qu'en nous voyant, les gens ne puissent pas douter que Jésus est ressuscité. On y est presque, non? Bon. Et finalement, le cinquième point qui se dit dans ce mystère de la résurrection, eh bien, c'est au fond le mystère de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu qui s'est manifestée sur la croix, elle s'accomplit dans la résurrection. Et comme disait le cardinal Lustiger, un Dieu seul peut pardonner les péchés parce que Dieu seul peut ressusciter les morts. Et finalement, c'est ce mystère de la résurrection qui est l'accomplissement du dessein de miséricorde de Dieu. Nous sommes dans l'année de la miséricorde et aujourd'hui, Jésus va montrer ses plaies glorifiées. Les plaies que nous lui avons faites, elles deviennent le lieu même de notre guérison parce qu'elles sont transfigurées par la résurrection. Et c'est vraiment l'occasion pour nous de nous laisser aussi guérir par les plaies de Jésus, de lui soumettre toutes les plaies de notre propre vie, mais les plaies aussi de notre humanité d'aujourd'hui. Que la résurrection de Jésus vienne illuminer de ses rayons notre humanité blessée, vienne la guérir. C'est l'occasion de donner et d'offrir à Jésus toutes les situations douloureuses, difficiles de notre temps, et de croire que sa miséricorde est plus forte que tout, que sa miséricorde est quand même capable de transformer le mal en bien, qu'elle est capable de donner justement à l'histoire un sens nouveau. Alors c'est la grande neuvaine de la miséricorde qui a commencé le Vendredi Saint, qui va se poursuivre tout au long de la semaine et qui va s'achever le jour de la miséricorde. C'est comme le déploiement de tout ce que Jésus a donné dans sa passion. Déjà, la vie jaillit de la mort, le pardon jaillit plus fort que l'offense, la renaissance est donnée là où nous étions en train d'aller vers la mort. C'est le commencement de toute chose. Alors n'hésitons pas aujourd'hui, dans les jours qui viennent, à prier le chapelet de la miséricorde. C'est une manière d'accueillir profondément ce mystère de Pâques, de l'intérioriser et en même temps de l'offrir pour la gloire du Père et le salut du monde entier. Vous voyez, si nous sommes ici à la messe aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour la gloire du Père et pour le salut du monde entier. Nous demandons que ce salut que Jésus est venu apporter par sa croix et sa résurrection, que ce salut s'étende à tous les hommes, qu'ils soient morts ou qu'ils soient vivants. Que ce salut vraiment fasse que le monde entier puisse recevoir la miséricorde de Dieu. Nous les chrétiens, nous représentons le monde entier aujourd'hui. Vous voyez, ces quelques disciples qui sont au pied du tombeau, eh bien, en fait, ils vont porter la bonne nouvelle au monde entier. Eh bien, nous aussi, nous sommes chargés de transmettre cette bonne nouvelle au monde entier et en même temps d'être les porteurs de la miséricorde de Dieu, pour même pour tous ceux que nous ne pourrons pas rencontrer, pour tous ceux que le Seigneur veut toucher dans l'invisible, là où nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire quelque chose. Donc, ayons une confiance totale dans ce que Dieu veut faire pour nous et pour le monde entier, dans cette semaine de Pâques, et laissons Jésus nous ressusciter, nous sortir de tous nos tombeaux. Amen.